Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv/tdactu, une émission qui vous est présentée par Unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. Raphaël, on va commencer par le match entre les 49ers et les Packers parce que c'était quand même le plus récent et surtout le plus intéressant. 49ers 24, Packers 21. On a eu un match où les Packers avaient le ballon pour aller égaliser ou gagner à une minute de la fin. Jordan Love a été intercepté. Les 49ers avaient marqué le touchdown pour passer devant sur la possession précédente. Les Packers, qui n'auraient pas été derrière si leur kicker Anders Carlson n'avait pas manqué un coup de pied de 41 yards juste avant le touchdown des 49ers. Des Packers qui étaient aussi à 2/5 dans la zone rouge, c'est-à-dire qu'ils n'ont marqué que 2 touchdowns dans 5 passages dans les 20 yards adverses. Est-ce qu'ils ont pris une leçon de réalisme, Raphaël ?
Oui, forcément. On peut dire qu'ils ont pris une leçon de réalisme parce que pour le coup, de l'autre côté, San Francisco n'est allé qu'une fois dans la red zone et a marqué un touchdown sur ce passage. Et on va dire que San Francisco a marqué par quelques coups d'éclat de certains de ses joueurs sur 2 drives plus ou moins précis. Et donc, c'est vrai qu'on a eu le sentiment que San Francisco, par moment, était peut-être plus serein et plus certain de sa force et de son expérience et qu'ils ont eu, en tout cas, ils ont pas lâché, ils ont senti que ça pourrait le faire jusqu'au bout. Donc oui, le réalisme a penché clairement des 49ers sur ce match.
1 sur 1 dans la zone rouge pour les 49ers, 2 ballons perdus pour les Packers, aucun pour les 49ers, plus de yards au total, plus de yards par action pour San Francisco. Les stats disent que c'est un succès logique. Pourquoi on a l'impression que c'est un petit hold-up quand même et que c'est pour ça notamment que c'était le titre de Marc qui était au résumé?
Je pense qu'on a cette impression-là parce que San Francisco arrivait quand même dans ses playoffs avec le statut de vrai numéro 1 très largement, j'ai envie de dire, en NFC. On s'attendait quand même à ce qu'il déroule un peu plus facilement face à une équipe des Packers qui avait la main chaude assurément, mais qui était malgré tout numéro 7 de la saison, équipe avec un quarterback inexpérimenté dans ses joutes de playoffs. Donc on s'attendait à ce que San Francisco s'en sorte beaucoup mieux que ça. Et du coup, ce scénario du match où ils sont très faiblement devant au score à la mi-temps, et puis derrière, ils courent après le score en deuxième mi-temps, et finalement, ils nous repassent devant que sur le dernier drive. Voilà, c'est ça qui crée ce sentiment de hold-up. C'est le côté tu repasses devant au score que sur un dernier drive, alors que tu as donné le sentiment une bonne partie du match que bah, c'était plus compliqué que prévu, que c'était plus difficile d'être devant. Donc je pense que c'est là-dessus que le côté hold-up se joue. Après, effectivement, c'est pas vraiment un hold-up dans le sens où, par exemple, on parle de l'attaque, mais la défense de San Francisco a fait quand même ce qu'il fallait en bloquant plusieurs fois l'attaque de Green Bay. Donc On peut pas enlever la performance défensive non plus, par exemple.
C'est ce que j'allais te demander, c'est est-ce qu'au final, ils ont pas fait ce que font souvent les grandes équipes dans ce type de match-là aussi, c'est que ils se sont jamais laissés larguer vraiment. Et ils ont réussi à serrer le jeu à la fin dans le réalisme. Pour notre génération, c'est un peu, ça rappelle le foot allemand, tu vois, des années 80-90. Tu vois, ce petit côté un petit peu pas très glamour, mais à la fin ça gagne. Parce que ils sont bien, très bien limités en début de match. Et ils vivent sur quelques gros coups. Il y a le touchdown de 32 yards de George Kittle qui est sur une troisième tentative. Il y a une course de 39 yards de Christian McCaffrey. Mais au final, est-ce que encore une fois, ils ont pas fait ce truc-là, quoi, des grandes équipes qui est OK, on n'est pas dedans, mais on ne se fait pas détacher, quoi.
Oui, y a un peu de ça. On en a parlé plusieurs fois dans la saison. Si je compare par exemple avec Philadelphie, à un moment, quand Philadelphie était à 10 victoires, on disait bah, voilà, c'est parce que c'est une grande équipe, ils savent gagner un peu ce genre de match raccro. Tu ne peux pas, du coup, totalement te dire que San Francisco, il n'y a pas de ça aussi un peu. Que c'est une équipe qui est sûre de sa force et de ses qualités, qui a beaucoup de talent offensif, à qui il faut peu de choses finalement pour briller à un moment. Et pour sortir de leur boîte et qu'ils sont presque trop nombreux pour être couverts tous, tout le match. Et du coup, si l'adversaire ne saisit pas toutes les opportunités que tu lui donnes pour te battre, eh ben, t'es toujours à portée de tir et le talent que t'as dans cette équipe finit par faire la différence. Et pour moi, c'est là-dessus, c'est que Green Bay a eu l'opportunité de l'emporter, ce match, c'est clair et net. Ils ont eu les ballons pour gagner. Mais ils n'ont pas réussi à les saisir en attaque. Ils n'ont pas réussi à saisir ça en attaque. Et peut-être même, on peut rajouter un peu en défense, il y a vraiment une interception qui doit être toute faite et qui, vu la position sur le terrain du défenseur, aurait dû finir en pick 6. Donc, en interception retournée pour un touchdown. Donc, voilà, leur adversaire n'a pas su saisir le bâton pour les battre et eux sont restés à portée de tir. Et le talent est un Brock Purdy, par exemple, parce qu'il a cristallisé beaucoup de remarques après match. T'as un Brock Purdy, effectivement, qui n'est pas bon toute une partie du match, imprécis, en difficulté face au blitz, mais qui fait, à l'image de cette équipe, qui fait le bon drive au bon moment.
Et j'allais te dire, alors tu vois, Brock Purdy, on le voit à l'écran, 23 sur 39, 252 yards, un touchdown. Il n'est pas bon, mais il n'est pas catastrophique. Et
non.
J'en reviens à ce truc des grandes équipes, parce qu'évidemment, les souvenirs magnifient tout. Donc, on a l'impression que Tom Brady, il n'a jamais raté une passe en playoff, etc. etc. Même des Peyton Manning. Le truc, c'est qu'aussi, dans les mauvais soirs, ils ne faisaient pas perdre leur équipe, notamment Brady du premier triplé, qui n'est pas un exceptionnel quarterback comme sur sa deuxième partie de carrière. Et en fait, je trouve qu'il fait ça. Évidemment, c'est poussif, mais au final, il est quand même très, très propre.
Ouais, alors je trouve quand même qu'il y a quelques interceptions relâchées qui auraient pu rendre la fiche moins propre, tu vois. Je sais pas si j'aurais dit propre, mais globalement, il fait plus ou moins aussi ce qui est en partie attendu de lui. C'est ne pas faire perdre cette équipe et se contenter, entre parenthèses, d'appliquer le plan de jeu et d'utiliser l'ensemble des armes offensives qu'il a. Et il l'a fait à par moment, par reprise. Alors, je suis d'accord pour ces détracteurs, ça changera probablement pas la vie qu'ils ont de lui sur le fait que c'est peut-être pas un grand quarterback. En tout cas, il l'est pas encore. Maintenant, bon, il a un peu de chance avec lui sur ce match, ça tombe du bon côté, et quand il faut faire le bon drive, il le fait, donc c'est aussi à son crédit.
Ça devient tatillon parce que il est pas encore, évidemment, c'est pas encore un top quarterback, etc., mais il est déjà meilleur que tout ce qu'ont eu les 49ers ces dernières années quand ils allaient en playoff. Hein.
Oui, non, mais je suis d'accord aussi là-dessus, je suis d'accord aussi, il exécute parfaitement, il est bon dans beaucoup de choses qu'il fait. On sait, il a un peu plus de mal quand il pleut et quand il y a beaucoup de blitz. Voilà, Green Bay a joué là-dessus, a tenté vraiment de le mettre en difficulté là-dessus et il a été un peu déstabilisé par moment. Il s'en sort un peu bien aussi, mais globalement, le match est pas incroyable. Mais alors, j'irai pas jusqu'à ce que, comme certains ont comparé en disant que c'est le genre de match à la Joe Montana parce qu'il y a que le dernier drive qui compte. J'irai pas utiliser ce genre de comparaison parce que je suis toujours un peu gêné par ça. Je trouve pas qu'un quarterback fasse une grande performance quand il y a juste un bon drive, on va dire.
Non, mais mine de rien, tu vois, pour relier à un Brady de début de carrière aussi, pourquoi pas, il fait un match où c'est pas parfait tout le temps, mais il y a des bons moments décisifs.
Oui, il sait être bon par moment et pour le moment, ça suffit à cette équipe. Donc,
vois, on, on est quand même dans beaucoup d'instantanéité qui fait que j'ai l'impression qu'on attend maintenant des mecs qui lancent tous 3 touchdowns, aucune interception, 300 yards par match, parce que ça ravirait Twitter et Facebook, mais en vrai, ça n'existe pas. Donc,
ouais,
il a fait le match qu'il fallait, j'ai envie de dire. Évidemment, en plus, tu le disais, il y a du monde autour de lui. Christian McCaffrey, 17 ballons, 98 yards de touchdown, plus 7 réceptions derrière pour 30 yards, mais 7 réceptions quand même. Bon, évidemment, c'est lui leur MVP, on n'a pas grand-chose à rajouter sur Christian McCaffrey, il a encore fait ce qu'il fallait aussi.
C'est ça. C'est ça, joueur capable sur une action de faire basculer le cours du match parce qu'il a ce talent-là. Voilà, c'est pour ça que San Francisco a misé autant pour le faire venir et que Shanahan le voulait. Enfin, je veux dire, on le voit toute la saison, on comprend, c'est la pièce maîtresse de cette attaque et voilà.
George Kittle a bien relevé le nez aussi par rapport à certains matchs de saison régulière, il s'est montré assez décisif. Oui, vas-y.
Non, mais c'est toute la difficulté pour battre cette équipe des 49ers. C'est qu'on l'a dit, on le redit, il y a énormément de talent dans cette attaque. Et que même quand tu arrives à en couvrir bien un ou deux, par exemple, Brandon Ayuk a globalement été bien couvert sur ce match, et ben, il reste toujours un Kittle qui traîne. Il reste toujours potentiellement un McCaffrey.
Jawan Jennings.
Donc, il y a un moment, moi, je trouve que la perf défensive de Green Bay, elle est pas mal. Hein.
Ah oui,
24
ah,
points
sûr.
Face à cette attaque, c'est franchement pas mal. Et Green Bay, malheureusement, et ça m'embête parce que j'ai bien aimé la dynamique Aaron Jones, Jordan Love, tout ça, mais Green Bay perd ce match en attaque.
Alors, on va revenir sur Green Bay juste avant, on va conclure sur les 49ers. Leur défense a aussi relevé le nez en fin de match, ils étaient un peu plus en difficulté en début de match. Ils ont bien défendu à la fin. Ils sont favoris de la NFC ?
Oui, pour moi, ils sont favoris. Trop de talent, des deux côtés du ballon, équipe complète... qui a quand même une certaine expérience, maturité maintenant des playoffs et de ces matchs-là. Ouais.
D'autant que justement, ils gagnent en ayant l'impression que tout se passe pas bien.
Tout n'est pas parfait.
Donc, ça veut dire qu'ils en ont encore un peu sous la semelle. Le truc à surveiller, ce sera l'absence éventuelle de Deebo Samuel, blessé à l'épaule. On en reparlera notamment dans l'émission de preview. On en saura plus à ce moment-là. Je reviens en effet sur Green Bay que tu as évoqué. Je sais qu'il n'y a pas de victoire morale, mais tout de même, est-ce qu'on n'a pas insisté à un truc qui se crée un petit peu ces dernières semaines autour de Green Bay ? Je trouve que c'est une équipe qui est quand même super attachante. Sur ce match, moi, j'ai l'impression qu'ils ont gagné plein de fans et que ça, c'est une des équipes un peu à suivre. Jordan Love, il a gagné des fans. Cette équipe, elle a gagné des fans. Et tu vois, on parlait de matchs diffusés sur des chaînes publiques ou des choses comme ça. C'est des moments, enfin des chaînes gratuites, je veux dire. C'est des moments où tu gagnes, je trouve, des supporters. Quoi.
Oui, complètement. C'est une équipe, on ne savait pas exactement à quoi s'attendre d'eux en début de saison. Ça a été un peu plus compliqué sur la première partie et il y a eu vraiment un renversement en cours de saison. Avec là une équipe de Green Bay qui, bien sûr, va regretter la défaite par rapport au scénario du match parce que franchement, ils ne passent pas loin d'être en finale NFC, ouais, ce qui est quand même absolument incroyable par rapport au début de saison. Mais la saison, elle est réussie du côté de Green Bay. T'as quand même globalement une certitude sur Jordan Love. De mémoire, il est quand même en fin de contrat, donc faut re-signer tout ça. Je sais pas exactement comment tu gères ça, ce deal. J'en sais rien. Mais bon, tu vas vouloir le re-signer, c'est certain. Et il s'est créé une alchimie autour de lui, de sa jeune escouade de receveurs, où il est capable toujours, match après match, d'en faire sortir un ou deux. T'as un Aaron Jones qui a été excellent, même Matt LaFleur, je pense que ça l'a renforcé dans ce qu'il pensait être comme coach et dans ce qu'il voulait imposer. Cette première année sans Aaron Rodgers, ça a dû quand même le satisfaire. Donc eux, ils sont comme tu dis, ils sont gagnants de cette saison. Franchement, personne va dire que la saison est ratée du côté de Green Bay.
Il y a l'interception de Jordan Love à la toute fin, hein, si on revient au match. Mais il a reconnu lui-même qu'il aurait dû se débarrasser du ballon en conférence de presse. Il a dit que c'était une erreur. Mais je trouve que ça ne remet rien en cause. C'est une expérience. Il faut se faire des fois en play-off, prendre des chocs, prendre des défaites. Brett Favre, il en sait les mêmes au milieu de sa carrière, à la fin de sa carrière. Enfin, voilà. On ne va pas dire oui, mais c'est parce qu'il est jeune, il a fait n'importe quoi. Il y a plein de quarterbacks qui ont fait cette erreur-là. Et voilà.
Bien sûr.
Et encore une fois, Aaron Jones, 108 yards au sol, tu le disais, Romeo. Alors, j'ai entendu, j'ai regardé le replay US où il disait Daubs, donc je dis tout le temps d'où, parce que ça s'écrit comme le département, mais c'est Daubs apparemment. Mais voilà, tu sors des Christian Watson, des Dontavion Weeks, etc. Et tu le disais, Matt LaFleur, alors ça passe aussi sur le chat, Matt LaFleur est réhabilité. Il n'est pas parfait, mais je trouve qu'en effet, il y a quand même un système en place et il a montré qu'il y a des raisons de lui faire confiance quand même.
Oui. D'autant plus qu'il a réussi en cours de saison, je trouve, et c'est là-dessus vraiment l'important, c'est qu'en cours de saison, ils ont réussi du côté de Green Bay à se réinventer, exagérons pas, mais en tout cas, à se reposer les bonnes questions sur comment l'équipe était menée en attaque et finalement à relancer une dynamique. Et c'est là-dessus, parce que je vais pas dire que c'est simple d'être un bon coach quand tout roule et que tes joueurs sont tous excellents et que c'est tous des vétérans, mais disons que là, il a quand même un groupe jeune. Le début de saison était mauvais, ça aurait pu s'enfoncer un peu dans la crise. Et non, ils arrivent à rebondir parce que le coaching change deux, trois choses. Donc c'est forcément à son crédit. Et oui, du côté de Green Bay, tu peux te dire que Matt LaFleur, tu lui laisses encore quelques années pour voir jusqu'où il pousse avec Jordan Love, c'est certain.
Et puis c'est pareil, hein, je veux dire, les coachs, c'est un peu comme les quarterbacks, c'est-à-dire qu'il faut que ça mature un petit peu. Alors oui, il y a des trucs qui n'ont pas été parfaits, il y a des appels de jeu qui n'ont pas été parfaits, etc. Mais quand on se rappelle comment on se moquait d'Andy Reid pour sa gestion de l'horloge, par exemple, à l'époque où il était à Philadelphie, ou des choses comme ça.
Oui, et t'as totalement raison. Et là, sur ce match, tu peux pas tout reprocher à LaFleur non plus. Enfin, c'est pas Matt LaFleur qui rate le field goal. C'est pas Matt LaFleur qui, sur la quatrième tentative, qui est refusé aux Packers, qui place le ballon de manière un peu aléatoire, encore en 2023. Enfin, voilà, il y a quand même des choix qui. Enfin, Green Bay atteint quand même 5 fois la red zone et à peu de choses près, les points ils sont là. Donc, c'est pas que du. Là-dessus, c'est aussi des faits de jeu à un moment de tes joueurs sur le terrain sur lesquels t'as pas forcément de prise en tant que coach, quoi. Tu peux pas tout gérer de A à Z. Donc, je suis d'accord, ouais.
Ouais, moi j'avoue que je suis un peu déçu. J'espérais qu'il y ait une des surprises qui passent, les Texans ou les Packers, qu'on ait un petit pousset quoi en finale de conférence. J'avoue que là on n'était pas loin de l'upset. J'étais un peu triste pour eux à la fin de ce match. La défense, ça revient aussi beaucoup sur le chat. Joe Barry, le coordinateur, lui aussi, il a pris très très cher pendant la saison. Les supporters des Packers, on en connaît quelques-uns dans la rédaction, étaient quand même pas très très enchantés par le travail. Ils ont quand même été très très bons pendant le début de match, notamment. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On change rien pendant l'intersaison?
Bah, moi j'aurais tendance à te dire on change rien si sauf si grosse opportunité au poste de coordinateur défensif. Là, tu vois, après c'est des questions de réseau entre LaFleur, le réseau qu'il peut avoir, on va dire, dans la ligue, sa capacité à faire venir un autre coordinateur. Si tu es certain de pouvoir faire venir un mec meilleur, parce qu'il y en a, donc, pourquoi pas? Maintenant, je suis pas choqué s'ils ont pas envie de repartir à zéro avec un jeune coordinateur qui a pas forcément fait ses preuves, ils ont pas de certitude et qui préfèrent partir sur cette fin de saison et redonner confiance à Joe Barry. Je serais pas choqué outre mesure pour le coup.
Ouais, c'est toujours le gros dilemme de fin de saison quand t'as un bon run de fin de saison, quoi, de savoir si c'est quelque chose de durable ou pas. Aucun des deux choix ne me choquerait, pour être honnête. En tout cas, ils ont une belle base de construction. Pour revenir sur Matt LaFleur, parce qu'on parle des coachs, mais mine de rien, encore une fois, quand on le laisse travailler sans avoir un quarterback un peu trop envahissant, le système a quand même montré qu'il avait même pas de receveur numéro 1 à proprement parler. Et ça, c'est quand même aussi une performance de réussir à bâtir quelque chose d'équilibré qui tient sur ses deux jambes sans avoir une superstar au poste de receveur. Enfin,
Tout à fait.
il y a quand même des bonnes choses. En tout cas, ce sera une des intersaisons intéressantes à suivre. En effet, il y a une prolongation de contrat à venir pour Jordan Love. Du coup, si je dis pas de bêtises, il est
Là, je
éligible.
crois, ouais. Ouais, tout
Donc,
à fait.
il y aura sûrement un gros contrat qui va arriver avec les attentes qui viennent avec. Et puis l'année prochaine, ils seront un peu plus attendus. Mais s'ils confirment, ça peut faire une très belle NFC Nord, mine de rien. Et ils peuvent vite revenir jouer les premiers rôles parce que
Ah oui,
là,
c'est
sur le
clair.
papier, si les Vikings re-signent Packer Cousins, tu te retrouves avec des Packers qui seront juste derrière les Lions, quoi. Ça
C'est
va
ça.
être intéressant. On passe au deuxième match, Raphaël. Il opposait les Baltimore Ravens aux Houston Texans, pardon. Je suis comment dire, déconcentré parce que la mise en page est un peu bizarre sur mon écran. Donc Ravens Texans, oula, ouais, voilà, là il y a du stroboscope là. Donc Ravens Texans, Ravens 34, Texans 10, le premier match du Divisional Round qui a connu moins de suspense, en tout cas sur la deuxième partie du match. 10 partout à la pause. Apparemment, Lamar Jackson aurait poussé une gueulante dans le vestiaire. Il a dit lui-même en conf de presse qu'il avait dit beaucoup de jurons dans le vestiaire à la mi-temps. Et ça a marché, puisque les Ravens ont marqué 24 points en deuxième mi-temps et n'en ont pas pris un seul. Le seul touchdown de Houston, il faut le préciser, sur leurs 10 points, c'est un retour de punt. Donc, ils ont complètement maîtrisé CJ Stroud, les Ravens. CJ Stroud qui a 19 sur 33, 175 yards, aucun touchdown, aucune interception, aucun sack non plus. Il y a eu beaucoup de pression, mais il n'a pas pris de sack. C'est une victoire défensive, Raphaël, quand même, là, des Ravens.
Oui, c'est d'abord une victoire défensive, effectivement. Ils prennent cette défense pour réellement que 3 points. Et elle a vraiment réussi à dominer une attaque qui était quand même en feu ces dernières semaines. De mémoire, CJ Stroud, toute la saison, il est autour de 275 yards par là lancé. Il n'est qu'à 174 sur ce match. Le jeu au sol est inexistant. Les receveurs ont galéré pour se démarquer. Enfin, on a vu cette défense de Baltimore qu'on a vu toute la saison coachée par Mike McDonald, le coordinateur défensif, qui continue à faire grimper sa cote assurément. Et c'est d'abord une victoire défensive parce que Baltimore a pas eu besoin d'être à fond en attaque dès le début du match. En fait, Baltimore aurait pu se réveiller même que dans le dernier quart ou sur le dernier drive, qu'ils auraient toujours été à portée de tir grâce à cette défense qui, en fait, a complètement bloqué Houston et qui a permis, encore une fois, à Lamar Jackson et à son attaque de se mettre tranquillement en route et de se réajuster en seconde mi-temps. Et c'était largement suffisant parce que ta défense te permettait de te mettre dans cette situation-là.
Ils en ont eu quelques-uns des matchs comme ça cette année, j'ai l'impression, où la défense faisait quand même beaucoup, beaucoup du boulot. Ils n'avaient pas forcément à aller à fond derrière. Le 213 yards seulement pour les Texans. CJ Stroud et les Texans, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de plus face à une défense pareille?
Pas grand chose. Il leur manque peut-être un peu de jus physique déjà par rapport aux Ravens, surtout que c'est quand même une attaque qui a eu quelques lots de blessures de Bobo ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'ils auraient pu mieux faire? Enfin, dans un monde idéal, en fait, il aurait fallu tout un peu mieux faire. Enfin, il aurait fallu réussir à ouvrir des brèches sur la ligne offensive. Il aurait fallu que t'aies peut-être un peu plus de cibles que Dalton Schultz et Nico Collins sur ces dernières semaines. Ça se réduit quand même exclusivement à eux deux, j'ai envie de dire. Donc, c'est vrai que ça devenait un peu facile à défendre, en tout cas, un peu plus facile pour maintenant. Je crois sincèrement. Moi, j'en suis un convaincu et on verra si la fin de saison me donne raison ou pas. Mais je pense qu'ils auraient pas pu beaucoup mieux faire parce que je crois vraiment que cette défense de Baltimore est très, très forte. Enfin, je pense qu'on a vraiment une des toute meilleure défense de ces dernières saisons et
ce qui est très fort,
compliqué à manœuvrer.
Ce qui est très très fort, d'autant qu'ils n'ont pas de superstar pass rusher, comme c'est quand même un peu la tendance des bonnes défenses ces dernières années, de TJ Watt, de Miles Garrett, etc. Eux, ils n'ont pas ça particulièrement. Non. C'est Justin Madubuike, je crois, leur meilleur sacker, hein, si je dis pas de bêtises, statistiquement sur la saison régulière. C'est vraiment, pour le coup, un système bien mis en place, bien coaché. C'est quand même très très fort. Évidemment, il y a des bons joueurs, hein, je dis pas, mais voilà, il n'y a pas de pass rusher superstar. Et dans l'autre sens, donc l'attaque des Ravens, 118 yards à la mi-temps, 52 yards à la passe seulement pour Lamar Jackson. On commençait à avoir des mauvais flashbacks du passé, de leurs échecs en playoff, etc. Et puis finalement, ça a sonné la révolte en deuxième mi-temps. Ils avaient besoin de se faire peur et puis c'est bon, on met de côté justement les fantômes du passé.
Il y avait peut-être un peu ça, effectivement. On a quand même eu en deuxième mi-temps des bons ajustements de Todd Monken, le coordinateur offensif, qui, a quand même dit à Lamar Jackson de jouer plus vite, de libérer plus vite la balle. Lamar Jackson, sur la première mi-temps, il est à 3,7 secondes avant de lancer la passe en moyenne. En deuxième mi-temps, il passe à 2,5. Enfin, voilà. Et c'est ce qu'on avait vu, ce qu'on avait dit cette saison. Quand Lamar Jackson arrive à lancer vite et à trouver ses cibles en rythme, plutôt que de chercher forcément à étirer les jeux, à gagner du temps, c'est quand même plus efficace pour faire bouger les chaînes. Et pourtant, ils ont été blitzés. Hein. Pour le coup, il a été blitzé, Lamar Jackson. Je veux dire, D'Amico Ryans, il a envoyé tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il voulait sur Lamar Jackson. Mais progressivement, ils ont réussi à se débarrasser du blitz, en tout cas à bien jouer avec. Non, en deuxième mi-temps, c'est vraiment les meilleures performances une des meilleures performances de la saison des Ravens. Et c'est surtout les bonnes performances qu'on a vues de Baltimore cette saison où Lamar Jackson trouve les solutions dans les airs parce que Zay Flowers, parce que Odell Beckham, Likely aussi est quand même en train de devenir un vrai bon tight end. Et au sol, ça continue à courir. Donc,
Ouais, ils ont 229 yards au sol sur ce match, hein, 42 courses pour 22 passes, donc clairement, il y avait une orientation. Mais la révolte est quand même hyper nette, c'est-à-dire qu'ils reviennent des vestiaires, ils marquent 3 touchdowns sur leurs 3 premiers drives, ouais. Le match est fini. Sur le premier, Lamar Jackson en particulier, hein, sur le premier drive de la deuxième mi-temps, le drive entier, hein, c'est passe de 9 yards, passe de 19 yards, course de 3 yards de Jackson, passe de 9 yards, passe incomplète et une course de 15 yards de Jackson pour le touchdown. Il marque ensuite sur les deux drives suivants une passe de 15 yards et une course de 8 yards de Lamar Jackson. Lamar Jackson qui finit à 16 sur 22, 152 yards et 2 touchdowns et il a 100 yards et 2 touchdowns au sol en 11 courses seulement. Je voyais que ça s'affûtait pour le démolir à la mi-temps.
Ouais, bah, c'était plusieurs après. Ouais.
Eh bah, excusez-moi, mais là, le mec réveille tout le monde. Alors, parce qu'en plus, on peut pas me dire il est pas leader et tout. Apparemment, il a démonté tout le monde à la mi-temps. Et derrière, ils reviennent, ils plantent 3 touchdowns. Moi, je veux bien, ça va encore critiquer. Il est pas MVP, machin et tout. Bah, là, je vois pas ce que tu peux faire de plus MVP que ça. Hein.
Non, bah non, non. Bon, après, moi, j'en suis inconvaincu. Donc, j'ai envie de dire que. J'ai pas beaucoup plus à dire que ce que j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, à d'autres moments de la saison. Je le trouve quand même, quand il est à ce niveau-là, je trouve que c'est un joueur exceptionnel qui fait gagner son équipe. Enfin, c'est la définition d'un MVP pour moi, en tout cas, ouais. Quand il fait ce genre de match. Cette attaque vit et meurt par lui et ses performances. Et, enfin, c'est franchement stratosphérique ce qu'il fait sur ce match. En deuxième mi-temps, c'est quand même extrêmement précis dans les lancers. Il débloque la situation au sol aussi par moment. C'est quand même un joueur qui est d'une complexité à défendre pour une défense. Enfin, tu sais jamais vraiment ce que ça va donner. Et maintenant qu'il est plus précis que jamais à la passe, enfin, je trouve, encore une fois, enfin, si je dis pas de bêtises, ce n'est que sa 4e campagne de playoff.
C'est possible, ouais.
Enfin, je trouve que les gens se sont vite emballés sur le fait qu'ils pouvaient pas faire gagner son équipe en play-off. 4 campagnes de play-off. Hein,
on parlait de culture de l'instant, je les ai pas sous la main, hein, mais si tu ressors les 4 premières campagnes de play-off de Peyton Manning, à mon avis.
Oui, oh bah,
il se serait fait enterrer selon les standards actuels.
Bah ouais, et de mecs comme Manning, enfin. Des Dan Marino, je veux dire, tout le monde gagne pas des titres dès sa première campagne de playoff, en fait, et tout le monde n'est pas excellent dès sa première campagne de playoff. Et effectivement, je pense que, en fait, il a aussi souffert de la comparaison avec Mahomes, parce que voilà, à peu près la même génération, on va dire ça comme ça, et Mahomes, bah, il arrive en playoff et c'est une sorte d'extraterrestre, et tout de suite ça gagne, mais c'est pas la norme en NFL, en fait. Ce n'est pas la norme de gagner tout de suite toutes ses premières saisons. Et de toute façon, il y a qu'une équipe qui va au bout. Donc, par essence, bah, il y a des équipes qui se plantent et qui gagnent pas tout le temps. Et voilà. Et je pense que les gens ont été un peu durs très rapidement avec Lamar Jackson sur ses playoffs.
Allez, regarde, c'est cadeau. Les game logs de Peyton Manning sur ses premiers matchs de playoffs. Alors, je vais essayer de grossir ça au maximum. Donc, 1999, premier playoff, défaite contre les Titans, 19-16, 45% de passes complétées, aucun touchdown. En 2000, défaite contre Miami, 23-17, 53% de passes complétées, un touchdown, aucune interception. Donc, il a toujours pas gagné. Hein. Troisième match de playoff, défaite 41-0 contre les Jets, deux interceptions, aucun touchdown. Donc, il faut qu'il attende sa 4e campagne de playoff pour gagner un match. Pour battre donc les Broncos, ironie du sort, et derrière il sort en finale de conf contre les Patriots avec 4 interceptions. Les interceptions sont cachées par notre fenêtre. Attends, j'arrive pas à les afficher. On les voit là. J'ai pas de bol. J'arrive pas à afficher.
Mais on a compris l'idée.
Il y a 4 interceptions. L'année d'après, donc, il perd au deuxième tour contre les Patriots. Aucun touchdown, une interception. L'année d'après, il perd. Donc, enfin, on en est à son 13e match de playoff pour gagner le Super Bowl.
Voilà. Non, mais. Et c'est pas le seul dans ce cas-là. Mais, enfin, effectivement, on a trop de tendance à ne juger. Et c'est normal aussi. On va pas faire les naïfs et les mais ce que je veux dire par là, c'est que il n'en était qu'à 4 campagnes de playoffs ou 3, je sais plus exactement si c'est la 4e ou la 5e, mais bon, ça avait pas toujours été dans le bon sens. On peut aussi laisser le temps au gars d'atteindre la maturité. Il a 27 ans, si je dis pas de bêtises. Tu vois, 27 ans, ne pas avoir gagné un Super Bowl jusqu'à maintenant, c'était pas non plus un scandale dans ta carrière NFL, quoi. Enfin,
il a 27 ans et 14 jours, il est né le 7 janvier.
Bon, est-ce qu'on... Moi, je suis content qu'il fasse ce genre de perf et à quelque part, j'aimerais bien qu'il aille très loin grâce à ça pour que certains sortent de ce débat de il peut pas faire gagner les Baltimore. Enfin,
C'est ses cinquièmes playoffs, je viens de vérifier.
voilà.
C'est ses cinquièmes playoffs et il avait gagné qu'un seul match. Jusque-là, si je ne dis pas, ouais, il avait gagné qu'un seul match. Donc c'est sa deuxième
Ouais,
victoire
tu
en
vois.
playoffs.
27 ans, enfin, j'aimerais bien
Non mais
qu'on.
clairement, le problème, il est. Mais je pense que c'est un peu dans tous les sports où maintenant on juge les mecs face à Djokovic ou face à
Oui.
Mbappé ou Messi ou Ronaldo ou machin. Je pense qu'on Brady et Mahomes sont pas la norme, tu le dis très bien.
C'est ça.
Donc voilà, c'est vraiment juste ça. On va parler un petit peu. Alors attends, parce que je sais plus où j'en étais. Voilà, j'ai un petit bug dans mes notes. Oui, on va revenir aux Ravens en global après Jackson. Est-ce que les Ravens sont favoris de l'AFC comme les 49ers de l'autre côté de la NFC? C'est-à-dire que j'ai l'impression que là, on a quand même montré que les deux c'était les plus forts, non, de chaque côté.
Oui, pour moi c'est effectivement ce sont les favoris en AFC. Moi j'irais même jusqu'à te dire que c'est même les favoris NFL tout court. En tout cas leurs prestations, alors toujours dur à comparer, ils jouent pas le même adversaire, hein, mais leur prestation d'hier me fait quand même sacrément me renforce dans l'idée qu'ils sont favoris au titre. Voilà, après c'est les playoffs, hein, c'est bon, c'est très bien commencé la NFL, ils iront peut-être pas au bout, mais oui,
Non mais
favoris.
disons que les deux ont une capacité de rouleau compresseur
Oui.
assez terrifiante et c'est vrai que bah, quand t'as Lamar Jackson en plus, le rouleau compresseur a l'air encore un peu plus terrifiant quand tout marche bien. Mais les deux, ouais, les deux ont une défense qui peut être très très forte. Les deux peuvent être des rouleaux compresseurs en attaque dans des styles un tout petit peu différents. Bon, je pense qu'on a nos deux favoris de chaque côté, en tout cas, et c'est pas pour rien que les deux ont tué la belle histoire des petits poussets qui se présentaient en face. On va finir avec ça d'ailleurs. Pour les Texans, c'est quoi la suite, la priorité numéro un de l'intersaison pour toi?
Continuer à se renforcer un peu partout, ligne offensive, peut-être un vrai receveur numéro 2 aussi à faire émerger. Enfin, ils ont des atouts pour se renforcer. Il y a quand même pas mal de free agents, hein, si je dis pas de bêtises. Il y a une bonne dizaine de joueurs sur lesquels il va falloir réfléchir. Par exemple, Dalton Schultz, par exemple, le tight end, qui ont des joueurs qui ont eu un vrai impact cette saison. Donc, il va falloir gérer ça. Mais bon, la reconstruction est tellement plus rapide que ce qui était prévu. Je pense même que le plus dur, ça va être de confirmer l'an prochain,
Oui, ah bah
parce que
oui.
y a un gros travail pour confirmer l'an prochain quand même.
Clairement. Et les Jaguars l'ont montré dans la même division.
Voilà.
Donc,
C'est ça.
mais j'ai l'impression quand même que comme les Packers, c'est une équipe qui a gagné beaucoup d'espoir et de fans en une semaine
Ah
là.
bah oui, je pense, ouais.
Bon, c'est
Ouais.
deux équipes qu'on a envie de revoir, honnêtement.
Totalement.
On est assez impatient. Voilà pour les débriefs des deux matchs. Raphaël, est-ce que tu veux rester avec moi juste pour faire un tout petit peu d'actu? On disait que c'est une sorte de podcast en direct. Est-ce que tu veux
Vas-y.
faire une petite page d'actu? C'est simple, c'est ça.
Allez.
Antonio Pierce confirmé au poste d'entraîneur. C'est la dernière actu qui est tombée depuis le dernier podcast au niveau entraîneur. Donc Antonio Pierce, il était intérimaire du côté de Las Vegas. Il est confirmé en tant que coach. Pour une fois, les Raiders ne sont pas allés au clinquant. Il avait
C'est vrai.
un bilan de 5 victoires pour 4 défaites. Il a 45 piges. Est-ce que pour toi, c'est le bon choix?
Sais pas si c'est le bon choix, c'est toujours dur sans savoir vraiment quelles étaient la capacité des Raiders à aller attirer mieux. C'est toujours un peu compliqué. Maintenant, je comprends aussi le choix. Les deux derniers gros contrats de coaching ont complètement raté. Ils doivent beaucoup d'argent à ces deux coachs. Peut-être qu'une solution un peu plus low cost, le temps d'assainir tout ça, c'est pas. Puis les joueurs, pour le coup, avaient l'air d'être totalement derrière lui. Alors, c'est pas toujours une bonne idée de suivre les joueurs parce que les joueurs sont pas toujours les mieux placés pour savoir ce qui est bien pour la franchise. Mais bon, quand t'as Max Crosby qui commence à se dire s'il est pas retenu, je demande mon transfert. Et puis là, ça s'est bien passé en termes de collectif, de dynamique. La défense était beaucoup meilleure, était clairement meilleure, ce qui est son domaine. Il a dit qu'il se connaissait pas en attaque et que son boulot là, c'était de trouver un bon coordinateur offensif. Écoute, on va lui laisser le bénéfice du doute.
Ouais, moi je suis dubitatif au sens où, comme tu le dis, ils ont essayé le clinquant deux fois de suite et ça s'est planté dans les grandes largeurs. C'était des coachs offensifs à chaque fois, ça s'est planté à chaque fois. Dans l'esprit, d'autant qu'il y a un papier qui est en préparation sur le site par notre statisticien Clément le papier grosso modo va vous montrer si c'est mieux d'embaucher un profil offensif ou défensif. Le mieux a l'air d'être quand même plutôt l'offensif, et vous verrez pourquoi dans le papier. Sur la foi de cet article-là, bah forcément, je me dis, l'ancien défenseur, etc. Je suis comme toi, je me méfie de l'enthousiasme des joueurs. Mais on peut pas savoir. Là, on est dans la boule de cristal. Hein. On voulait en dire un mot parce que voilà, c'est l'info. On vous transmet l'info. C'est pas du tout de l'analyse sur du. Voilà, il a 5 victoires, 4 défaites. Ce qui est pas indigent vu l'effectif qu'il y avait. Ça, on peut le dire, c'est sûr.
Et une défense, honnêtement, une défense cette saison qui a été meilleure que ce qui était attendu par rapport à l'effectif, par rapport à tout ça, ce qui était son secteur, tu vois. Donc, et l'équipe, pour le coup, on peut pas lui reprocher pareil d'avoir remobilisé l'équipe qui avait l'air d'être en ruine et en train de couler sous McDaniels. Il a quand même un peu.
En fait, moi, je peux pas me prononcer tant qu'on sait pas qui il embauche comme coordinateur offensif.
Ouais, je suis d'accord.
Ils ont viré le staff offensif. Donc,
c'est ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc, voilà. S'il arrive à trouver une petite pépite coordinateur offensif et que ça clique, pourquoi pas, tu vois, enfin.
Et éventuellement un quarterback d'ailleurs, hein, parce que Garoppolo ou O'Connell.
Ça va aller de pair avec le nouveau coordinateur offensif qui, à mon avis, va être interrogé là-dessus. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Et ça sera le plus convaincant là-dessus.
Je suis pas hyper convaincu par ce truc-là. Bon, en tout cas, voilà pour l'actu et voilà pour le débrief. Merci beaucoup, Raphaël.
Eh ben, c'était un plaisir.
Et on se retrouve, nous, on se retrouve dans le débrief des deux autres matchs déjà. Et puis après, on se retrouvera pour la finale NFC sur W9.
Tout à fait, tout à fait.
Eh bien, merci. Ben ouais, carrément, carrément. Merci encore, Raphaël. En tout cas, je vais te.
Bonne soirée à tout le monde.
Je vais te kicker de la conversation Zoom pour récupérer Nitinia. Merci beaucoup, Raphaël.
Ciao.
À
bientôt.
Ciao.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.